Parlons 1000 jours, une chronique pour accompagner les parents dans les premières années de vie de leur enfant. À l'occasion de la fête des mères, nous avons eu envie de donner la parole à des mamans pour partager leurs histoires, leurs joies et parfois aussi leurs défis. Sabrina, Carla, Yasmine et Mandy, merci d'être là avec nous.
Bonjour Laura.
Bonjour.
Bonjour, bonjour Laura.
Pour commencer, j'aimerais vous poser une question très simple, ou pas, on va voir. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous vous êtes vraiment dit « ça y est, je suis maman » ?
C'est un moment assez difficile parce que c'est pas arrivé, il n'y avait pas un moment précis où j'étais là, ah bah ça y est, je suis maman. C'était plutôt le retour de la maternité où il y avait un bébé avec moi et j'étais là, mais c'est vrai, je suis vraiment maman. J'avais pas l'impression que quelque chose a changé dans ma vie, mais en même temps, il y avait un petit être avec moi. À chaque fois, je me disais, mais si, je suis maman. Voilà, ça s'est passé un peu comme ça et ça arrive jusqu'à présent en regardant le petit, en disant... Bah, je suis vraiment sa maman.
Alors moi, le jour où je me suis sentie maman, c'est quand j'ai reçu mon premier décompte de la CAF. Ça y est. Non, je plaisante. On pourra couper. Non, en vrai, c'est moins drôle que ça. C'est vraiment au moment où j'ai accouché, où j'ai eu ma fille, donc Charlie. Mon accouchement s'est très 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 mal passé, j'ai failli y rester. En fait, j'ai accouché, on me l'a sorti vraiment de force et ça a été extrêmement traumatique. C'était pas du tout ni le moment, ni... Enfin, voilà. Donc, j'étais clairement sur le point de m'arrêter, de mourir, clairement. Et en fait, quand j'ai repris un peu connaissance, on m'a posé ma fille sur moi. Et là, j'ai senti en fait que non seulement je venais de lui donner la vie, mais elle venait de me donner la mienne. Parce que j'ai toujours eu ce sentiment, depuis toujours, d'être un petit peu morcelée. Et quand j'ai eu ma fille vraiment sur moi, je l'ai vue comme un puzzle en fait, qui était en train de se reconstituer. Et je me suis dit, ça y est, j'existe enfin pour quelqu'un. Voilà, et c'est à ce moment-là où je suis devenue maman. Et après, il y a eu la CAF.
Alors moi, ça va être différent. C'est avant, quand j'étais enceinte des jumeaux, j'ai dû aller à l'hôpital un moment parce que j'ai fait de la fièvre et tout. Donc mon médecin traitant m'a envoyée à l'hôpital, aux urgences. Et j'avais pas trop conscience, en fait, j'étais enceinte, mais j'avais pas conscience de cette parentalité, de cette maternité qui arrivait. J'étais encore dans ma jeunesse, fille d'eux éventuellement, mais pas avoir des enfants. J'arrive à l'accueil et la dame, elle appelle ses collègues et elle dit « il y a une maman qui est devant moi ». Et le mot « il y a une maman qui est devant moi », en fait, je me considérais pas comme possiblement maman, en fait. Enfin, j'avais pas cette notion-là. C'est un peu... comme on dit, les papiers, etc., quand on les reçoit, moi, je me rappelle aussi de la première signature d'autorisation des enfants, c'est un truc de grand, quoi. Quand j'ai pris ça dans la figure, après, j'ai pris toute l'ampleur, et j'ai imaginé mes deux garçons, et je me suis dit, un jour, ils seront grands, et puis ils vont descendre les escaliers, ils me dépasseront, et là, tout est arrivé d'un coup. Mais avant la naissance, en fait. Avant la naissance. Et là, après, ils ont eu... la grossesse, j'ai eu une importance, j'ai imaginé mes enfants, et j'ai réussi à me projeter. Et ça a été parce que cette dame, elle a dit, il y a une maman devant moi.
Moi, la première fois que je me suis dit que j'étais maman, que j'étais déjà devenue maman, c'est pendant l'accouchement aussi. Et en fait, c'est la première fois que j'ai vraiment eu peur pour mon fils. Parce que l'accouchement était compliqué aussi, plus pour lui que pour moi. Et il y a un moment donné où on ne le trouvait plus au monitoring, on n'avait plus aucun rythme cardiaque. Et j'ai vu dans les yeux de la sage-femme un petit moment de panique quand même. Bon, après, on a retrouvé, il était juste en train de bouger dans tous les sens. Mais j'ai eu très très peur, je me suis mise à pleurer et en fait j'ai pris conscience que là il se passe quelque chose de grand quoi. Je vais être inquiète pratiquement toute ma vie pour quelqu'un d'autre que pour moi. Mais je rejoins Yasmine sur le fait qu'on se le dit un peu tous les jours en fait. Des fois je me dis, je le regarde et puis je me dis ah ouais je suis maman c'est bizarre quand même, enfin ouais je sais pas.
Et d'un enfant à l'autre, alors moi je parle pour moi qui ai plusieurs enfants du coup, c'est toujours aussi fort, alors je pense que Sabrina tu pourras me rejoindre aussi là-dessus, peu importe le nombre de grossesses ou le nombre d'accouchements ou le nombre d'enfants qu'on a, c'est toujours aussi intense, ça n'arrive pas forcément de la même manière, ça n'arrive pas toujours sous la même forme, mais ça reste toujours un moment, je me suis aussi dit ça y est je suis maman quand j'ai eu mon deuxième et quand j'ai eu mon troisième. et pas forcément au même moment, et pas forcément de la même intensité. Enfin, si, la même intensité, mais pas forcément sous la même forme et pas avec les mêmes idées, entre guillemets. Mais à chaque fois, c'est quand même arrivé. Et j'ai été... à chaque fois, je suis devenue maman pour chacun de mes enfants.
Moi, j'ai moins eu ce sentiment de surprise, en fait. Il y a une même intensité, mais... J'avais pas ce côté un peu naïf en fait que j'avais sur les premiers, et en fait je savais plus à quoi m'attendre et ce que je recherchais dans la maternité du troisième, parce que j'ai eu les deux, c'était des jumeaux, donc j'ai que deux comparaisons. Enfin, je pense qu'en ayant des jumeaux déjà, voilà, on vit pas la maternité pareil, c'est beaucoup plus technique, j'ai envie de dire, et logistique. On est moins dans l'affect, enfin on est beaucoup dans l'affect parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais on est très focalisé sur les garder en vie, les faire grandir. Enfin, on est moins dans le poupouning. Moi, je me rappelle d'une amie qui avait été surprise de voir que je changeais mes garçons à une vitesse, sans prendre le temps de leur chatouiller les pieds, faire des papouilles et tout. Je dis, mais j'ai pas le temps, en fait. Je ne peux pas avec des jumeaux. Et en fait, quand j'ai eu mon troisième, j'étais plus préparée à cette maternité et je voulais justement tout ce débordement d'amour et de temps. Et rien que... et elle m'a vu, cette même amie, avec mon dernier, et elle m'a dit, c'est exactement ça, en fait. Elle m'a vu le pouponner, faire des blagues, des petites chatouilles, prendre le temps, en fait, de le changer. Et donc, je dirais que du coup, sur le deuxième, j'étais prête à recevoir, en fait, ça. Et j'étais moins dans le « faut absolument maintenir en vie mes enfants ». Enfin, voilà, j'étais plus dans la technique avant, et là, je suis plus dans l'affect.
On imagine beaucoup de choses avant d'avoir un enfant. Et vous, quelle est la chose qui vous a le plus surprise dans la maternité ?
Moi, je dirais c'est un peu comme tout, on imagine beaucoup de choses et une fois devant le fait, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer parce que ça reste l'inconnu quand même. On me l'a imagé comme un voyage et c'est exactement ça. Quand on va vers un pays qu'on connaît pas du tout, on peut imaginer beaucoup de choses et se dire ouais, ça va être génial ou même l'inverse. Une fois arrivé, l'expérience elle est complètement différente. Et vu que c'est une expérience au quotidien, du coup, c'est très dur d'avoir une image fixe ou une image réaliste, au final, sans le vivre. Et je pense que les mamans qui ont déjà plusieurs enfants peuvent aussi dire que c'est différent à chaque fois et il n'y a rien... Même si on a déjà l'expérience, on ne la revivra jamais, au final.
C'est vrai. Enfin, l'image du voyage, c'est vrai que la découverte d'un pays différent, c'est pas faux. Ouais.
Vous deux, vous diriez que vous étiez... peut-être mieux préparé pour vos enfants suivants ?
Moi, oui. En fait, il y a 10 ans, je trouve. Maintenant, il y a 11 ans, mais il y avait déjà 10 ans de différence avec les jumeaux et mon dernier. On n'en parlait pas autant de la maternité, on n'avait pas autant d'aide. Pour le troisième, je me suis obligée, parce que ce n'est pas dans ma nature, mais je me suis orientée vers les 1000 jours. Et ça, ça m'a aidée. Ça m'a aidée à relativiser. Pour finir sur ce qui a changé par rapport au dernier, c'est que les premiers, je me suis rendu compte que tout allait très vite. Et en fait, après, maintenant, je suis préparée quand c'est dur, quand c'est compliqué. C'est ce que je dis tout le temps, quand les nuits, ça va pas, quand l'enfant il est malade. La première grossesse, les premiers enfants m'ont permis de comprendre que ça n'était que temporaire et que ça passait très vite, en fait. Donc, c'est plus ça où je trouve que du coup, j'étais plus décontractée pour la deuxième fois, en fait.
Ce qui m'a le plus surprise dans la maternité, c'était vraiment... Mon instinct et ce côté animal que j'aurais jamais soupçonné, en tout cas pas à ce point-là, dans tout. Dans la protection, dans la surprotection, dans le « il faut manger, il faut dormir, il faut pas qu'ils aient froid ». Enfin voilà, dans tout ça, vraiment je me suis... Et puis dans la surprotection, dans ce côté un peu maman louve. Et puis à chaque voyage, à chaque pays différent du coup, avec mes trois enfants... Comme ça a été des grossesses différentes, comme ça a été des enfants différents, même, enfin voilà. Avec mon dernier, même si ça a été une grossesse qui était beaucoup plus difficile parce que ça a été un parcours PMA de 3 ans, je pensais savoir, naïvement, je me suis dit, j'en ai eu deux, ils vont bien, ils sont en bonne santé, ils sont vivants tous les deux, voilà, je les ai maintenus en vie, vraiment, comme tu dis. J'ai réussi au moins à faire ça. Et bien, pas du tout, ça fonctionne pas du tout avec le troisième, tout ce qui marche avec les deux premiers ne fonctionne pas avec mon troisième. Et là, j'attends mon quatrième enfant et je m'attends à ne m'attendre à rien, parce que je sais que ça sera aussi différent et ça commence déjà de toute façon différemment. Ce qui m'a le plus surpris dans la maternité, au final, c'est ça, c'est de me laisser surprendre et de me laisser surprendre par mes enfants et par moi-même.
Je croyais connaître le monde de la petite enfance parce que c'est le métier de ma mère, donc j'ai baigné un peu là-dedans quand j'étais petite. Et en fait, je suis tous les jours surprise par ce que fait mon fils, ce qu'il est capable de faire, ce que sont capables de faire les autres bébés que j'ai autour de moi, qui évoluent tous hyper différemment. Mais je pense que ce qui m'a le plus surprise dans la maternité, c'est de voir à quel point, je le vois avec mon fils et je le vois aussi avec les autres, ils sont nés avec une personnalité vraiment marquée. Et ça, c'est hyper impressionnant parce que pendant la grossesse, je me questionnais beaucoup sur ce qui est de l'acquis et ce qui est de l'inné. Je trouve qu'il y a quand même une grande part d'inné dans ce qu'est mon fils aujourd'hui. Par exemple, un exemple bête, mais il bougeait énormément. Dans mon ventre, quand j'étais enceinte, j'avais du mal à dormir parfois parce qu'il vraiment bougeait dans tous les sens. On a demandé à la sage-femme, est-ce que ça veut dire que ça va être un petit monstre, entre guillemets. J'ai pas dit ça, je sais plus le mot que j'ai employé, mais voilà. Et la sage-femme m'a dit, oh bah non, ça veut rien dire, il peut très bien se calmer. Et en fait, il est très très actif et très tonique. Et il a toujours été comme ça, il a toujours eu besoin de bouger. Et ouais, c'est assez impressionnant de se dire ça, quoi.
Devenir maman, ça change souvent beaucoup de choses. Et qu'est-ce que ça vous a appris sur vous-même, la maternité ?
Alors moi, ce que ça m'a appris sur moi-même, c'est que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de tolérance et de patience envers mes enfants, mais que je n'avais aucune tolérance et aucune patience envers moi-même. Et que je repousse mes limites au maximum, parfois même trop loin. Ça, j'en ai eu conscience avec mon dernier enfant. Parce que quand on se met en danger réellement, là, on se rend compte qu'on est allé trop loin. Plutôt que de demander de l'aide, on préfère pousser. Mais quand il s'agit de mes enfants, j'ai beaucoup de patience, j'ai beaucoup de tolérance et j'ai aucun problème à les demander de l'aide pour mes enfants. Ce sera toujours leur intérêt avant le mien ou avant celui de quiconque. Ça, c'est ce que ça m'a appris. Et la maternité, ça m'a appris aussi... j'étais maman, mais qu'il y avait autour de moi aussi d'autres mamans qui faisaient différemment, mais qui faisaient bien aussi. Et que c'est pas parce que moi je faisais différemment que je faisais mal. C'est surtout ça. Je me posais beaucoup de questions, me dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que je sais faire, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais correctement, parce que je fais pas comme dans la littérature. Parce que voilà, ce qui est préconisé par. Je sais plus comment elle s'appelle, Pernoud, là, j'élève mon enfant. Moi, j'ai été élevée avec ça. Ma mère, Karine Pernoud, je crois, c'est ça. Elle m'avait donné ce bouquin-là il y a 8 ans pour ma fille. Et je me dis, mais si je ne fais pas ça, je ne fais pas non plus comme Dolto, je ne fais pas comme un tel. Cyrulnik non plus, je ne fais pas tout pareil. Je lisais beaucoup et en fait, je me suis rendu compte que finalement, ça fonctionnait quand même et qu'il y avait d'autres mamans qui vivaient différemment et que ça fonctionnait. Et qu'en fin de compte, il n'y a pas un seul enfant, mais il n'y a pas non plus une seule maman, il n'y a pas une seule façon de faire. Et que c'est constamment s'adapter, c'est un peu... C'est tout le temps être sur une corde et tout le temps être en équilibre avec son enfant. Je pense que c'est ça aussi qui... C'est ça, c'est trouver l'équilibre. L'équilibre de son enfant, l'équilibre de soi-même, pour trouver l'équilibre avec tout le monde et avec son enfant. Essayer plein de choses, essayer tout le temps, et parfois ça fonctionne pas. Et quand on n'a pas beaucoup de patience, c'est pas évident ça. C'est pas évident de se dire ça fonctionne pas au premier abord, ça fonctionne pas, ça fonctionnera jamais, ou je sais pas faire, j'y arriverai jamais. Non. On va essayer autre chose, on va essayer différemment, et tant que l'enfant est en sécurité et en bonne santé, il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas et qu'on fasse mal. C'est garder l'essence même des choses. Et je pense qu'on apprend à faire ça après avec l'âge et avec les autres enfants, enfin avec la fratrie. Je pense que c'est vraiment le fait d'avoir plusieurs enfants qui nous apprend ça, c'est de relativiser et de se dire mais il y a des choses qui sont essentielles.
Qu'est-ce que la maternité vous a appris sur vous-même ?
À ne plus être égoïste. L'altruisme, je dirais même en général. Parce que avant, on va dire que je pensais à moi, j'étais assez jeune, puis je pouvais être impatiente. Je rejoins Mandy sur ce qu'elle disait par rapport aux enfants. On a des personnalités différentes, des façons de gérer différemment. Et ce que disait Carla aussi, que... Il y avait beaucoup dîners et on avait des personnes, des vraies personnes qui naissent en fait. C'est un truc de dingue. Et on a beau, moi c'était quand même des jumeaux, donc on se dit on va les élever pareil, ils vont être tout le temps ensemble. Et en fait j'ai pas un jumeau, enfin les garçons ils sont différents physiquement, mentalement, les passions, tout, il y a rien. J'ai deux personnes, donc il faut apprendre à composer avec chacun. Et donc ça donne de la patience et être tourné un peu plus sur les autres. Et du coup même dans ma vie personnelle et professionnelle, je trouve que maintenant, je me pose beaucoup plus à me dire si la personne a réagi comme ça, c'est peut-être qu'il y a une raison, en fait. je comprends plus, j'ai plus de recul sur les chocs aussi que je peux prendre, parce que bah, les gens ne sont pas toujours faciles, il ne faut pas dire autre chose. Et des fois, je me prends des murs, je me dis, bon, en fait, on n'a pas le même niveau de lecture, on n'a pas tout ça. Et c'est la maternité qui m'a apporté ça. Parce que j'ai essayé de comprendre mes enfants, et en parallèle, bah, du coup, j'ai lu, je me suis renseignée, j'ai appris, en fait. Et je trouve que moi, ça m'a donné une dimension plus haute, une prise de recul par rapport aux gens en général, alors qu'avant, j'étais juste centrée sur moi-même. Et puis les gens, s'ils me plaisaient pas, bah, ils me plaisaient pas, quoi. Enfin, voilà.
En fait, tes enfants, ils t'ont rendu sympa.
Bah, c'est ça. C'est exactement ça.
Cool, merci, les gars.
Ils m'ont rendu un peu moins dark.
Ce que la maternité m'a appris sur moi-même, c'est surtout au niveau des priorités. J'ai pas le même sens des priorités, en fait, maintenant. Bah, c'est mon fils. C'est pas un podium, c'est une falaise, quoi. Donc, en fait, je me voyais pas du tout, par exemple. Moi, j'étais très ambitieuse. C'est surtout, ouais, par rapport à relations, j'avais des choses à prouver. Je bossais, j'ai déjà fait des semaines de 100 heures. Là, maintenant, je suis en reconversion parce que j'ai considéré que ma vie professionnelle n'était pas compatible avec ma vie familiale et je pensais que ça allait me coûter. En fait, c'est surtout ça le truc, c'est que ça me coûte pas du tout. Bon, il y a des moments, ça me manque un peu parce que voilà, c'était exaltant. Mais franchement, pour l'instant, je suis au foyer. La plupart du temps, je suis avec mon fils. Avant d'avoir des enfants, je voyais ça d'un œil un peu péjoratif. Alors que, franchement, c'est très bien, quoi. C'est pas toujours rose, hein, mais j'adore être avec mon fils. Il n'y a pas de sujet, donc, et ça s'applique à plein d'autres domaines où c'est vraiment une question de priorité. Un truc bête, mais par exemple, les rapports que j'ai aux autres, les disputes de couple, par exemple, bah, ça se règle très vite. Déjà parce qu'on n'a pas le temps, on se dispute 5 minutes et puis après y a mon fils qui est là, lui il a le sourire donc déjà ça nous fait sourire. Puis aussi il a envie qu'on joue avec lui, il a envie qu'on aille au parc on passe à autre chose en fait. Donc sur plein de trucs ça permet de relativiser énormément.
Mais c'est marrant tu vois que tu dises toi pour ton travail, moi le fait d'être devenue maman, alors en plus maman de famille nombreuse maintenant, hein, quand on en a 3 et bientôt 4, hein. J'ai l'impression, moi, justement, d'être stigmatisée par rapport à ça et que, tout de suite, c'est que je vais devoir arrêter ma vie professionnelle. Et une des premières questions qu'on m'a posées quand j'étais enceinte de mon troisième, c'est « tu vas arrêter de travailler ?» Alors qu'on n'a pas posé la question à mon mari, parce que lui aussi, en fin de compte, il a 3 enfants. Et ça ne s'est jamais posé. Donc, moi, j'avais besoin, justement, de reprendre le travail rapidement. J'ai pris un peu de temps après mon fils. Mais j'avais besoin de reprendre le travail pour mon équilibre aussi. Et je sais déjà, et j'ai déjà prévenu mon mari, qu'après là, mon quatrième enfant, j'allais reprendre le travail plus tôt encore. Parce que j'ai besoin de cet équilibre-là et j'ai besoin, moi, de me prouver à moi-même que je suis capable de le faire, que j'aime mon métier passionnément. Et j'ai aussi besoin de prouver aux autres que je peux être maman. Et je le dis souvent et je le dis à mes responsables, quand je suis chez moi, je suis une maman infirmière. Quand je suis au travail, je suis une infirmière maman. Donc les priorités ne sont pas forcément les mêmes. Quand je suis au travail, je n'ai pas de téléphone, on ne peut pas me joindre. Donc c'est comme ça, je suis vraiment à mon travail, dans mon travail pour mes patients. Et par contre, quand je suis à la maison, ce n'est pas la peine de m'appeler pour revenir ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, ça n'existe pas. Et j'ai besoin vraiment de cet équilibre-là, même avec 3 enfants, même avec 4 enfants. J'ai besoin de me prouver ça et de prouver aussi un peu aux autres, hein, quelque part. Je pense que c'est un peu d'orgueil aussi, hein, clairement, que je suis capable de le faire et pas juste faire semblant, pas être là moitié ou non. Mais il faut aussi être là sur tous les fronts et être là à 200% pour les enfants aussi. Donc après, on verra bien comment ça se passe parce que passer 38 ans, ça va pas être le même délire, mais on verra bien.
C'est marrant ce que tu dis, que c'est une question qui m'a été posée dans le cadre de mon travail. J'avais fait une interview aussi avec les équipes américaines, donc c'était très américain et tout. Et il y avait le CEO de l'époque, donc vraiment le président de la boîte, qui m'a posé une question. C'était vraiment sur les femmes dans le leadership, donc qui sont dirigeants. Et il m'a demandé comment je faisais pour gérer en fait cette gestion maison-travail, parce que sa fille était dans le cas et qu'elle était justement un peu en panique de reprendre le travail. Et je lui avais dit, quand je suis à la maison, je suis 100% à la maison. Et quand je suis au travail, je suis 100% au travail. Et à chaque partie, parce que malgré tout, bah, moi, que ce soit dans mon travail ou à la maison, il peut y avoir des urgences. Hein, au travail, si mon enfant est hospitalisé, il va quand même falloir que je sorte et que j'y retourne. Au travail, je laissais mon numéro perso à quelques personnes de confiance qui allaient m'appeler que si vraiment il y avait un problème. Et à l'inverse, au travail, mon téléphone professionnel, je savais qu'on m'appellerait dessus que s'il y avait vraiment une urgence et qu'on allait réfléchir à deux fois avant de composer ces numéros dans les deux cas, en fait. Et j'ai jamais voulu grouper, en fait, les téléphones alors que je pouvais, parce que je voulais séparer la partie pro de la partie perso, tout le temps.
Compartimenter.
Plus... Chose que j'ai pas toujours la facilité de le faire, mais j'essaye en tout cas de faire ça. Et c'est une question qui nous est souvent posée. Et qui est je te rejoins sur le coup des trois enfants. Là, ça y est, c'est famille nombreuse. Est-ce que tu vas revenir ? Moi, on m'a demandé si j'allais revenir travailler. Oui, je vais retourner travailler. Et oui, je vais retourner en déplacement. Et ça fait partie de moi. C'est aussi mon identité. Et c'est ce qui m'avait fait très peur aux jumeaux et que j'ai eu du mal à assimiler à ma première grossesse. C'était cette perte de... j'étais plus celle qui était carriériste, qui avait envie de bosser, qui avait envie de... Je me suis dit, je vais plus y arriver, en fait. Et en fait, non, ça revient. Ça revient naturellement ou pas. Hein. Des fois, on n'en a pas besoin. Mais moi, dans mon cas, c'est revenu dès que j'ai remis les pieds au travail.
C'est dur de choisir un seul truc. Mais je rejoins les autres mamans sur plusieurs points. Par exemple, sur la patience. Découvrir une certaine patience que je ne me connaissais pas. Par contre, aussi pour le travail et le fait de prouver quelque chose, moi, ça, c'est complètement l'inverse qui est arrivé. C'est que d'un coup, j'avais plus le besoin de prouver à personne de quoi j'étais capable ou pas, parce qu'il y avait quelque chose de plus important et c'était l'impact pour lui, ce que ça allait donner, qui passait en premier. Et c'est aussi le recul des gens sur soi, où ils vont dire des phrases limite bateau, sans réfléchir ce que ça peut avoir comme impact sur nous. Et au final, je me dis, ils vont dormir tranquillement. Moi, je vais réfléchir à ça, à essayer de prouver quelque chose qu'eux, ils ne se souviendront même pas qu'ils avaient évoqué ça. C'est surtout ça, ce recul-là que j'ai pris. Et aussi, d'une certaine manière, insister pour faire les choses. Avant, je pouvais lâcher facilement en me disant, tant pis, c'est tout. Je voulais faire ça aujourd'hui, la flemme. Chose qui, quand ça concerne mon fils, tout de suite, on va partir, on va sortir, on va le faire. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai découvert pour moi. Mes dimanches, tranquilles dans le canapé, d'un coup, ne sont plus très attirants en me disant « Oh non, il va perdre une journée complète à tourner en rond, non ». C'est quelque chose que, deux ans en arrière, je n'aurais pas pensé.
Vous êtes toutes les quatre rencontrées dans le cadre de l'espace des 1000 jours. Est-ce que pour vous c'est important aussi, quand on devient maman, de pouvoir rencontrer d'autres mamans, de pouvoir échanger, de pouvoir justement peut-être se confier aussi et puis avoir des conseils d'autres mamans ?
Oh oui.
Oui.
Pour moi, il y a un avant-après 1000 jours. Rencontrer d'autres mamans, comprendre qu'on n'est pas seul. Que ce qu'on est en train de vivre, c'est pas non plus la fin du monde, parce que y a d'autres bébés qui vivent la même chose, que c'est pas parce qu'on fait quelque chose de mal. Ça, franchement, ça fait la différence sur notre état psychologique.
Te dire quelqu'un qui fait pire que toi, ça te fait du bien.
Non, c'est plutôt Popcorn. L'inverse, c'est de dire quelqu'un qui vit la même chose que moi, ou plutôt quelqu'un, même s'il vit pas la même chose, d'avoir un recul et de me dire, mais ça va en fait finalement, non, t'inquiète pas, ce qui se passe, c'est normal, ça va passer. Ou comme Sabrina, elle disait que finalement, c'est court. Là, il ne fait pas ses nuits, ça va, il ne va pas faire ses nuits pendant 15 ans. Du coup, ça, prendre ce recul-là, c'est très important, ça aide. Et cet espace-là, quand on arrive, c'est bête, mais on arrive, on s'assoit par terre. Notre enfant, on n'est pas obligé de le garder sur soi. Il a cet espace-là où il peut gambader. D'un coup, il y a une certaine charge qui disparaît. J'ai pas besoin d'être à l'affût. Et pouvoir parler librement sans peser ses mots, franchement, ça allège beaucoup.
J'ai fait avec et sans. Et je pensais pas avoir besoin, en fait, de ça, ce que je disais. J'ai fait ça parce que j'avais besoin d'être plus renseignée. J'avais pris une leçon dans ma première grossesse. Mais en fait, il faut tout un village pour élever un enfant. Et c'est vrai, de nos jours, quand on n'a pas forcément du monde autour de soi, et on l'a vu dans notre groupe de mamans, il y en a beaucoup qui n'ont pas de famille autour, ou très peu, ou un peu éloignés, on est tout seul. Et en fait, d'avoir ce groupe autour de nous, ça nous aide à avoir en fait ce petit village. Ça va être des conseils, ça va être aussi essayer de se dépanner, de prendre Mandy en voiture pour pas qu'elle marche, de... Non mais voilà, il y a une sorte d'après de sororité aussi qui s'est créée, de personnalités qui sont toutes différentes, et du coup il y a un cercle de confiance qui s'est créé, on sait qu'en fait là on peut tout dire, il n'y a rien qui sortira quoi. Et en fait, je trouve que moi j'ai mieux vécu ma maternité et toutes les difficultés qui sont inhérentes, hein, parce que c'est pas tout rose, psychologiquement tout ça tout, parce que j'avais ce cercle-là autour avec qui je pouvais, on va dire, décharger quoi.
Pour moi, ça a été salutaire. Vraiment, je venais prendre des renseignements pour un accueil en crèche. Et j'ai croisé Karine dans les couloirs. J'ai l'impression d'avoir été happée, quoi. Et ouais, ça a été vraiment salutaire. Je sais pas comment j'aurais fait sans. Moi, personnellement, je suis une personne vraiment anxieuse. Je suis arrivée à Arras de Marseille. Je connaissais personne et je suis tombée enceinte tout de suite. Et quand même, j'étais isolée, quoi. Et là, d'arriver au groupe de parole, ça a été... Vraiment, j'attendais le mercredi, la semaine. Je disais, ah, c'est bientôt mercredi, c'est bien, ça va me faire du bien et tout. Parce que, ouais, pour moi, c'était super de pouvoir discuter, de voir des gens, de sentir dans un groupe bienveillant. Et puis, c'est impressionnant parce que... parce que on a quand même... de prime abord, je pense qu'on se serait, enfin, je suis sûre qu'on se serait pas rencontrés. Et puis, on n'a pas toutes les mêmes centres d'intérêt. On est différentes et pourtant, il y a vraiment beaucoup de bienveillance. Et enfin, moi, je les trouve impressionnantes, les autres mamans de notre groupe qu'on s'est créé sur plein de trucs où je me dis, ah ouais, elle est incroyable, un tel, ah ouais, super. Et ça donne des idées, ça donne du courage. Ouais, c'est vraiment bien.
Comme Sabrina, j'ai fait avec et sans. Je sais même pas pourquoi je me suis retrouvée au mi-jour, j'en sais rien en fait. Non mais vraiment, je sais même pas. J'ai vu la lumière, je suis rentrée, clairement, je pense que ça s'est passé comme ça. Mais vraiment. Et c'est Karine, pareil, qui m'a appelée, qui m'a dit « Ah bah, demain on a un groupe entre plusieurs mamans. Venez, ça va vous faire du bien. Un petit café. » Pourquoi ça va faire du bien? Elle me connaît pas. La première chose, je me dis « Mais elle me connaît pas, pourquoi elle me dit ça? Ça va pas bien, non ?» Et je suis rentrée chez moi et mon mari m'a dit « Mais écoute, je pense que si, peut-être que ça te ferait du bien quand même. » De toute façon, j'avais rien d'autre à faire, donc j'y suis allée un peu... J'ai traîné la patte, hein. Clairement, j'ai traîné la patte. Et j'ai rencontré, vraiment, j'ai fait des rencontres. Vraiment, j'ai aimé. J'ai rencontré plein de mamans, plein de bébés, plein de gens. Et alors, au début, ça faisait un peu groupe de parole maman dépressive anonyme. Hein, mais au final, on ne se serait jamais rencontrés ailleurs, je pense, parce qu'on n'a aucun centre d'intérêt commun, si ce n'est nos enfants, qui sont eux-mêmes tous différents. Donc en fait, je pense que notre seul point commun, c'est Karine. Et quel point commun? Alors ça m'a fait beaucoup de bien et ça a étonné mes proches. Alors moi, ce qui m'a fait du bien aussi, c'est de pouvoir parler librement. Et en fait, presque, limite, si j'avais envie de m'inventer une vie au mi-jour, j'aurais pu, parce que personne ne me connaissait. Si j'avais envie de dire que j'étais Beyoncé le week-end, bah, j'aurais pu, en fait, on m'aurait cru.
Je t'aurais cru.
Et je pouvais dire du mal de mon mari, de ma belle-mère, de tout le monde. Non, mais vraiment, je pouvais mettre des tartines à tout le monde s'en foutait, parce que personne ne les connaissait. Et ça m'a fait un bien, mais phénoménal. Parce qu'il n'y avait pas de jugement. Et oui, mon mari, qui est formidable, qui est juste merveilleux, il a pris tarif à certains moments parce que j'étais fatiguée et que les autres papas aussi prenaient tarif. Il ne faut pas le dire. Non, il n'y a que le mien qui prenait. Et ça m'a fait beaucoup de bien, cette bulle-là, où je pouvais être vraiment moi-même et où je pouvais vraiment dire les choses sans filtre parfois. Et des petites blagounettes, voilà, ça... Ça m'a fait du bien et cet espace-là vraiment de parole libre et de voir que les autres aussi, ils avaient, que chacune avait son petit grain de folie et que chacune avait son conjoint et voilà ses difficultés. Moi, ça m'a fait du bien. Voilà.
Puis en plus, on rigole, quoi. C'était, y a eu des moments où vraiment on a des éclats de rire et ça fait du bien. Enfin, moi, je trouve physiquement, c'est, ça soulage, quoi.
On rit de soi et on rit des autres.
Ouais, ouais, ouais.
C'est aussi la facilité de se voir et de faire des rencontres avec les autres parents, personnellement, avec mes proches, j'ose pas parce que c'est trop instable. Mon fils va commencer sa sieste à 13h au lieu de la commencer comme d'habitude. Et finalement, il va dormir 3h alors que d'habitude, il fait une demi-heure. Finalement, je peux pas sortir, je me sens trop gênée. Du coup, je réduis un petit peu ce genre d'échange avec mes proches. Mais avec les autres mamans, je prends pas de pincettes. Je vais dire oui, mais voilà, si mon fils il a décidé de faire autrement, ça va pas les choquer, ça va pas les embêter. Elles vont tout de suite comprendre. Et ce qui a fait que ça m'a sorti d'un isolement social. Et le fait de s'entendre aussi et de pouvoir échanger, ça a fait aussi la différence.
On a eu des ateliers qui étaient assez agréables aussi, et d'autres qui étaient un peu plus difficiles. Mais bon, ça nous a fait des bons souvenirs à chaque fois.
Oui, il y a eu des moments improbables quand même.
Il y a eu des moments improbables, ouais. Il y a eu des moments improbables.
Après aussi, il faut, au-delà de la parole, au mille jours, le fait qu'il y avait des ateliers, c'est quelque chose que personnellement, je ne m'attendais pas, je ne savais pas qu'à cet âge-là, les enfants, on pouvait les intéresser, ils pouvaient faire quelque chose. Par exemple, Nathalie avait 8 mois. 7-8 mois, j'ai fait un atelier lecture. Il était scotché en train d'écouter, de regarder ce qui se passait. Avant d'être maman, avant d'être dans cet atelier-là, je ne pensais pas que je pouvais intéresser un enfant de cet âge-là pour ces ateliers. C'est quelque chose de très intéressant de se dire que moi, je ne voulais pas quitter mon fils pour la première année. Je ne sentais pas ce besoin de sortir sans lui, mais quand même, je sentais le besoin. Et là, ça réunissait toutes les conditions. Ça veut dire que je sortais, mais en même temps, lui, il n'est pas à subir juste sa poussette pour que moi, je puisse prendre un verre, par exemple. Je voyais d'autres mamans, je pouvais discuter, ça me changeait d'air. Et en même temps, lui, il est intéressé, il fait quelque chose. Et c'est incroyable ce qu'il peut faire. Tous les ateliers qu'on a, que ce soit des cantines, de la lecture ou de la motricité, c'est incroyable qu'on puisse faire tout ça.
Je trouve aussi qu'on s'est donné du courage. Il y a eu des ateliers où certaines mamans, entre elles, après la fin, ont dit bon, « on va boire un café ou manger un morceau après ». Donc il y en a celles qui pouvaient, celles qui ne pouvaient pas, bon, pour question d'emploi du temps. Et en fait, je pense que ça a donné le courage à certaines mamans de dire bah, « je vais quelque part avec mon bébé, en fait ».
Oui.
Et je m'en fiche du regard des autres parce qu'en fait, en groupe, on se comprend mieux. Et s'il y en a un qui est un peu chafouin, on va s'entraider et on va pas laisser la maman en train de galérer toute seule comme une pauvre miséreuse dans son au restaurant en fait.
Et on peut aller aux toilettes sans laisser le bébé, emmener le bébé aux toilettes.
Mais le gang des poussettes.
Ça permet aussi de sociabiliser nos enfants d'abord dans un milieu très kid friendly qui est les 1000 jours et de se dire allez maintenant on sort de notre zone de confort parce que il faut que les enfants soient habitués à voir autre chose que leur maison.
Et surtout ne pas faire le choix de sortir ou de les garder.
Ouais, c'est ça.
C'est vraiment faire les deux en même temps, ça, c'est, pour moi, c'est juste incroyable.
Parce que moi, j'aurais pas pensé à quel point c'est pas toujours facile avec les amis qui ont pas d'enfants. En fait, c'est pas évident parce que la dernière fois, par exemple, j'ai reçu une amie qui est venue passer toute une journée ici, à Arras. En fait, j'ai eu l'impression, quand elle est partie, moi, je culpabilise parce que, elle a été, voilà, il n'y a pas de souci, c'est parce que mon fils, il dort que sur moi pour la sieste, donc je m'absente une heure parce qu'il faut qu'il dorme, enfin voilà, elle n'a aucun problème avec ça, mais moi, je culpabilise parce que j'ai l'impression, voilà, de soit il dort, soit je lui cours après, elle essaye de me donner des nouvelles de sa vie, et moi, je cours après mon fils, et j'ai l'impression de ne pas être là pour les gens, j'ai l'impression qu'elle est partie et que j'ai rien appris de ce qui se passe dans sa vie. Je culpabilise un peu, on se dit qu'on n'est pas... Et avec les amis qui ont des enfants, c'est vrai que c'est naturel, en fait. Il n'y a pas ce souci-là où... Bon, après, c'est peut-être juste moi qui culpabilise et que mon amie était très contente de venir, mais il y a quand même un décalage qui n'est pas toujours facile à gérer.
Si votre enfant écoute ce podcast dans quelques années, qu'aimeriez-vous lui dire aujourd'hui ?
Que la radio, c'était pas dans les dinosaures.
Les spationautes n'existent plus.
Alors, moi, ce que j'aimerais dire à mes enfants, s'ils écoutent ça dans quelques années, c'est leur dire que j'ai fait de mon mieux. Vraiment. J'ai essayé de faire de mon mieux, même si ça s'est pas toujours vu, même si ça s'est pas toujours entendu. Que si je prenais du temps pour eux, ou enfin voilà, si je prenais du temps pour moi, c'était pour être mieux après pour eux, que tout ce que j'ai fait, c'est juste et uniquement par amour, que même si parfois ils m'ont trouvé dur, si parfois ils m'ont trouvé peut-être injuste, déjà je m'excuse, parce que c'était pas le but, mais surtout que je les aime comme jamais j'aurais cru pouvoir aimer quelqu'un. Et que si j'ai réussi à faire tout ça aussi, c'est grâce à leur papa, parce qu'on n'en parle pas assez, ou alors on en parle mal de nos conjoints. Mais voilà, moi je sais que mon mari, c'est entre autres, hein, j'ai d'autres personnes autour de moi, mais mon mari c'est aussi mon phare dans la tempête, c'est aussi mon pilier. Et heureusement que je l'ai, sinon j'aurais pas eu 3 voire 4 magnifiques enfants. Donc voilà, tout ce que je voudrais leur dire, c'est merci. Merci d'être arrivé dans ma vie. Et puis oui, parfois le bateau il tangue, parfois le bateau il prend l'eau, mais on va y arriver quand même. Et que si je suis plus là dans quelques années, bah, c'est pas grave, en fait une maman elle est toujours là. Peu importe, ils n'ont qu'à fermer les yeux, parce qu'on n'est pas immortels. Ils n'ont qu'à fermer les yeux et ils sauront que je suis là. Ils sauront que je suis quelque part en train de leur chatouiller les pieds, ou en train de mettre mon doigt dans leurs oreilles, ou en train de les serrer très fort. Je serai de toute façon là. Ils peuvent aller où ils veulent, qu'ils veulent de moi ou pas, je serai là quand même, et que je les aime profondément.
J'ai été élevée dans beaucoup de pudeur sur les mots affectifs, on va dire. Donc, c'est une question qui est difficile pour moi.
Ce que je voudrais leur dire, alors moi j'en ai 2 grands déjà qui comprennent, et puis j'en ai un tout petit. Donc le tout petit, je ne sais pas encore comment il va évoluer et tout, mais je peux déjà dire aux grands que je suis fière de ce qu'ils sont devenus. Ils ont tous les 2 belles personnalités, et ça c'est chouette. J'aime à croire que j'y suis un peu responsable, quelque part, et que donc ils devraient me remercier pour ce don incroyable, et cette beauté, je plaisante. Non, je suis très fière en fait de mes grands qui évoluent très bien, et j'espère que ça va continuer comme ça. C'est 2 personnes incroyables, donc je suis fière d'eux. Et puis mon petit aussi, pour l'instant j'en suis très très fière, je le trouve vraiment tout choupiné et tout, et je sais qu'il va bien grandir, donc ouais, c'est plus de la fierté vraiment envers mes enfants. Peut-être parce que justement, je ne me sens pas tant responsable que ça de ce qu'ils sont en train de devenir. Je trouve qu'ils sont chouettes.
J'aimerais bien lui dire, et éventuellement leur dire, si j'ai d'autres enfants un jour, qu'ils peuvent être absolument tout ce qu'ils ont envie d'être, et que sans condition, je les aimerais énormément toujours, et qu'ils peuvent être, que ce soit dans la vie professionnelle, intime. J'imagine que c'est vrai que Sabrina, tes grands, ils ont l'air super serviables, attentionnés, et ils sont beaux. Mais je pense que tu aurais été aussi fière d'eux, oui. Quoi qu'ils soient. Et je pense que c'est vraiment un truc de maman, de parent, et qui parfois se ternit un peu par des contraintes sociales. Voilà, on a envie de prouver à la voisine que nos enfants sont polis et intelligents. Et en fait, moi, j'ai envie, j'espère, pouvoir jamais rentrer là-dedans. Et voilà, je voudrais dire à mon fils que quoi qu'il devienne, bah, je l'aimerais tout autant, et c'est-à-dire énormément.
Bah, c'est une question qui est difficile, parce qu'on a envie de dire beaucoup de choses, mais les mots ne sont pas forcément là. Et malgré tout, on a envie de ne pas se planter dans le message qu'on veut transmettre. Mais c'est vrai que le premier, c'est ce que j'aimerais lui dire, c'est qu'il est que amour. Il vient d'amour, et il l'est toujours. C'est un message, je pense, qui sera valable pour tous les enfants du futur aussi, espérons. Et je rejoins Carla dans le pas de conditions, il peut être ce qu'il veut. Ça, c'est vraiment la chose que j'aimerais bien qu'il garde en tête, qu'il n'y a aucune condition, il n'y a aucune façon d'être pour qu'il soit aimé ou encouragé. Et voilà, c'est ne jamais oublier qu'on sera toujours là, que c'est juste s'écouter. S'écouter et d'aller au plus loin qu'il veut, en sachant que quand il retombera, il y aura toujours, on sera toujours là, quoi qu'il en soit. Voilà, que je l'aime et qu'on l'aime aussi, et que notre vie a complètement changé. Ou même si c'est quelque chose qui était voulu de base, on n'a pas imaginé que ça allait être autant d'amour et autant de choses. Enfin, on ne sait pas pouvoir aimer de cette manière-là.
Si vous deviez résumer la maternité en un mot, ça serait lequel et pourquoi ?
Galère.
Caf.
Je reste sur voyage. parce qu'il peut tout contenir, le voyage au final. Il y a tout, les hauts, les bas, les bonnes surprises, les mauvaises, la galère de thunes, tout.
Bah, la réponse facile, c'est amour, hein, après... c'est la réponse facile, mais c'est sincère quand même. Après, si je dois dire, je dirais quand même questionnement, parce qu'au quotidien, c'est énormément de questionnements. Et moi, le moindre truc, je me dis, est-ce que je dois faire comme ça? Est-ce que je fais bien de faire comme ça? Même une fois que c'est fait, est-ce que j'ai bien fait de faire comme ça hier? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il va être heureux? 1000 questions.
Ambivalence, parce que justement, on a à la fois le gros côté amour, incroyable, les sentiments et tout, une peur à l'opposé qui est immense. On a toujours peur, j'ai l'impression. Enfin, moi, j'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose à mes enfants. Et donc, il y a à la fois des hauts et des bas et des sentiments qui sont hyper contradictoires tout le temps, tout le temps. Et à toutes les étapes de leur âge, de la maternité, que ce soit dès la grossesse jusqu'après, cette ambivalence d'émotions, ces contradictions, c'est incroyable.
En tout cas, merci à toutes les quatre d'être passées au studio. Merci pour vos témoignages, votre sincérité aussi. Ce podcast, c'est une petite parenthèse hein, pour rappeler que derrière chaque maman, il y a une histoire, des émotions et énormément d'amour. Très belle fête des mères à vous toutes.
Merci.
Merci.
Et peut-être à bientôt. Parlons 1000 jours, une production Radio PFM en partenariat avec l'espace des 1000 jours de la ville d'Arras.